à nos invités pour cette émission autour du deuil avec Jeanne Malve. Donc, on connaît bien Annie Pegolotti qui est devenue vice-présidente de Jeanne Malve et puis Madeleine Jacquet, présidente de Jeanne Malve jusqu'à la mort, accompagnée la vie. Et comme dit toujours Annie Pegolotti, on insiste beaucoup sur le mot vie. Bonjour à toutes les deux.
Bonjour.
Et puis,
bonjour.
Donc, je vous laisse présenter ce que vous avez prévu de nous partager.
Bonjour à vous. Donc, je suis Madeleine Jacquet, présidente de Jeanne Malve Haute-Provence. Et je vais donc vous parler de Jeanne Malve, ensuite de notre congrès fédératif qui a eu lieu le mois dernier. Et Annie vous parlera ensuite de notre rencontre prévue deuil, le 17 juin à 18h. Donc, Jeanne Malve, vous connaissez. Nous sommes donc une association de bénévoles d'accompagnement formés à l'écoute auprès de personnes en fin de vie, soit parce qu'elles sont âgées ou très âgées, dans les EHPAD ou à domicile, soit que leur état de santé soit précaire et les amène en maison de soins, voire en maison de soins palliatifs. Notre association couvre le nord du département. Il y a une autre association qui s'appelle l'ASP, qui est basée sur Manosque et qui assure le sud du département. Nous avons actuellement 20 bénévoles formés qui visitent les EHPAD de Digne, Aiglun, Thoard, Maligé, Lémé, Entrevaux. Nous allons également au Cousson. Trois de nos bénévoles qui vont commencer leur formation vont aller dans les EHPAD de Saint-André-les-Alpes et de Seine-les-Alpes, qui donc seront couverts l'an prochain. Mais malgré nos 20 bénévoles, nous recrutons encore. Nous sommes en lien avec l'équipe territoriale de soins palliatifs du centre hospitalier de Digne et avec le service d'hospitalisation à domicile. Nous aurons donc de plus en plus d'accompagnement à domicile à assurer à la demande de ces deux services. Si donc vous avez un peu de temps disponible, ne serait-ce qu'une heure par semaine, n'hésitez pas à nous contacter. Notre association adhère à une fédération nationale, Jeanne Malve, qui assure des liens avec les autorités gouvernementales pour que la mort, la vieillesse, soient accueillies dans notre société actuelle, très axée sur le jeu, le divertissement, le loisir. Cette fédération tient chaque année un congrès qui nous rassemble. Cette année, nous avons eu le congrès qui s'est tenu à Saint-Étienne le dernier week-end du mois de mai. Nous étions 314 personnes représentant 57 associations Jeanne Malve venues de toute la France. Ça a eu lieu du 23 au 25 mai à Saint-Étienne pour réfléchir sur le thème « Un peu de joie en fin de vie ». Nous avons eu donc des regards croisés sur la joie d'accompagner les personnes en fin de vie. Et de façon surprenante, une personne en fin de vie peut éprouver de la joie. La joie est une expérience, une émotion intérieure profonde qui surgit de façon imprévisible. Elle est un élan qui se fait sentir plus vivant. Elle augmente notre possibilité d'être et d'agir. Elle nous remplit. Elle ne se commande pas. Elle est fulgurante et elle marque pour longtemps, mais pour autant elle échappe aussi vite. Dans l'accompagnement des personnes en fin de vie, cette joie n'est pas à rechercher comme un idéal. Elle peut naître d'un regard, d'un geste, d'une parole. Les soignants, comme les bénévoles, témoignent des petits riens, des petits bonheurs partagés. Pouvoir parfois rire ensemble permet de résister au tragique de la situation, d'apporter de la légèreté. Contrairement à ce que l'on pourrait imaginer, rien de suspect à ce que les accompagnants puissent ressentir de la joie dans cette période de souffrance et de mort. Accompagnant bénévole, en donnant du temps, en étant présent à l'autre, nous ne savons pas ce que, à ce moment, l'accompagné va prendre en nous, ce qu'il va écrire sur la page blanche que nous lui offrons. Rien de plus pour nous que d'accueillir cette relation, ce moment de vie, et de nous réjouir d'avoir été là, sans fuir, car le malade nous oblige à l'authenticité. Alors, la joie peut naître de la rencontre. Il s'est passé quelque chose, je m'y retrouve. Non, la fin de vie n'est pas qu'une période d'attente de la mort ou une période de souffrance. Elle est encore un moment de vie. Les mourants sont toujours des vivants, Des émotions extrêmes telles que l'envie d'en finir et le désir de vivre coexistent intensément. À nous de les entendre, alors que la mort est si proche, cette joie ressentie par l'accompagnant bénévole est bien difficile à appréhender, à partager et plus encore à transmettre. Oser témoigner de la joie en fin de vie est un challenge. Transformant nos expériences individuelles en messages sociétals crédibles et audibles, les associations JALMAV auront à s'engager dans ce travail. En 2025, c'est un enjeu majeur. Je laisse la parole maintenant à Annie qui va vous parler donc de cet accompagnement au deuil.
Bien, alors moi je voulais vous parler de notre troisième rencontre que nous avons dénommée « Et si nous parlions deuil ?» qui aura lieu le 17 juin à 18h. Quelques mots théoriques sur le deuil. Le deuil a été énormément décrit par Elisabeth Kübler-Ross, il y a beaucoup de livres sur elle, donc elle parle de 5 étapes. Les 5 étapes, il ne faut pas les voir comme quelque chose de linéaire. C'est un cheminement qui peut aller d'une étape à une autre. Donc, les mots essentiels que l'on peut retenir, c'est le déni. Donc, non, ce n'est pas possible, ça ne peut pas m'arriver, etc. Le marchandage. Donc, le marchandage, c'est si. Alors, on voit en période de deuil des personnes qui sont capables de donner beaucoup de choses. Il faut être très prudent par rapport à ça. Nous, on est bien formés, les bénévoles, à ça, parce qu'on pourrait nous dire, je vous donne ma maison, je veux dire, c'est une période où la personne est tellement vulnérable qu'elle est capable de tout faire. La colère, alors ça c'est quelque chose que l'on rencontre fréquemment. Ce n'est pas juste, c'est injuste, pourquoi moi ? C'est un sentiment qu'il faut savoir accueillir et reconnaître. Après il y a la période, après je dis après mais on va, je le redis, d'une étape à l'autre. La période de dépression. Alors ce n'est pas une dépression au sens pathologique du mot, c'est une période de tristesse où l'on pleure. À noter qu'il peut y avoir des deuils pathologiques, et donc ça, ce n'est plus notre ressort. Nous avons affaire à des personnes endeuillées qui ne sont pas dans un deuil pathologique, j'en dirai peut-être 2 mots après. Ensuite, ce qu'on appelle l'acceptation, c'est-à-dire qu'on se résout à la perte, et ça vient beaucoup après. Donc, je le redis, ce n'est pas un chemin linéaire, mais c'est un chemin qui est long. Et ça, il faut l'entendre, parce que comme l'a déjà souligné Madeleine, on veut que ça aille vite, il faut que la mort arrive vite. La belle mort, c'est de mourir brutalement. Le deuil, on ne veut pas en parler ou peu. Et on n'est pas dans cette démarche-là. Parce que quand moi, je compare souvent le deuil à une plaie, c'est que si on ferme trop vite, ben, ça s'infecte. Après, c'est vrai que le deuil, étymologiquement, c'est la douleur. Hein. Et c'est vrai que c'est une période douloureuse dont on voudrait qu'elle soit la plus courte possible. C'est vrai qu'on n'est pas sur terre pour souffrir, mais malheureusement, dans la vie, il y a de mauvais moments et le deuil en fait partie.
Par rapport au cheminement, aux 5 étapes que tu as données, Annie, oui. On peut avoir une acceptation. Enfin, ça peut être un peu dans le désordre. Et,
Tout à fait.
Moi, en ce qui me concerne, j'ai eu l'impression d'avoir bien accepté le décès d'un proche, quoi. Mais après seulement, j'étais surprise de ma... J'avais l'impression d'être le jour de l'enterrement, d'être OK, quoi. Et puis la tristesse est venue après, tout doucement, et maintenant elle est là.
Tout à fait. Donc, c'est pas du tout linéaire. Mm. Et ce que tu décris, c'est tout à fait ça. Surtout quand il y a eu ce qu'on appelle le pré-deuil. Donc, quand on a accompagné un proche longtemps, on s'est déjà résolu, entre guillemets, à cette perte. Parce qu'on a vu la personne qui était très mal, et on savait très bien qu'il fallait que ça arrive. Pour la personne, essentiellement. Je veux dire, en soins palliatifs, malgré les traitements antidouleurs, tout ce qui existe, quand on applique bien la loi Claeys-Néonetti, que je recite, parce que, encore une fois, là j'ai encore lu un témoignage dans la presse, quelqu'un qui est révolté parce qu'on n'a pas calmé la personne, parce qu'on l'a laissé souffrir, c'est une atteinte à la loi, ça, je veux dire, et à l'humanité, parce que normalement, tout est prévu pour. sauf qu'on ne connaît pas cette loi et qu'on n'applique pas et qu'on va la changer. Nous, on est prêts à ce changement parce qu'il est vraiment là-dedans. Mais si vous voulez, on continuera toujours à défendre la loi Claeys-Leonetti qui, je le fais un bref rappel, comprend le fait de faire des directives anticipées, rappelle la loi sur les droits des malades qui ont le droit d'arrêter les traitements et que pour qu'ils ne souffrent pas en phase terminale, on fait une sédation continue. Voilà. Et si ça s'était appliqué, on aurait peut-être 0,1% des cas où il faudrait faire plus. Je ferme la parenthèse. Voilà. Alors, je vous ai décrit les 5 étapes du deuil et je veux dire un petit mot d'histoire. Parce qu'avant, comme l'a dit Madeleine, la mort, elle avait plus sa place dans la vie. Et maintenant, on veut gommer. Alors, ce qui faisait que l'on reconnaissait l'endeuillé, c'était le costume du deuil qui a évolué. C'est passé du blanc et c'est vrai le noir avec deuil complet, demi-deuil. Et c'est vrai que moi qui suis d'origine italienne, j'ai vu ma grand-mère tout le temps en deuil. Et j'ai même vu ma mère avec du mauve parce qu'elle avait perdu une tante. Donc on passait du noir au mauve et surtout pas de couleur vive. Hein. Je veux dire, maintenant il arrive qu'à des obsèques des personnes qui ne soient pas en noir. Le deuil, ça avait quand même une vertu, y compris le brassard, c'était qu'on portait une certaine attention à la personne endeuillée. On savait qu'elle était fragile. Il existait une espèce de solidarité. On allait dans les villages, il y avait la veillée, où les enfants assistaient, donc ils étaient bien familiarisés aussi avec la mort, et on préparait des repas. Il y avait toute cette entraide qui existait et qui permettait l'expression des émotions. Dernièrement, lors des obsèques, j'ai entendu un prêtre qui disait que c'était quand même une période triste et qu'on avait le droit de pleurer. Je veux dire, c'est bien que ce soit dit et que ce soit dit non seulement à l'Église, mais au niveau sociétal. Je veux dire, pleurer, ça soulage. Après avoir pleuré, eh bien, écoutez, on peut se sentir fatigué, mais soulagé. Parce que je reviens là-dessus, le deuil, c'est quand même une période où on parle du travail de deuil. Tout le monde n'est pas d'accord avec cette définition. Mais c'est vrai que c'est une période où, y compris physiquement, on souffre, et bien sûr psychologiquement, par rapport à la perte. Et je le redis, il faut du temps. Dans les écrits, on parle de minimum 2 ans. Une année où on revit tous les événements et une année où on se dit, bon, ben, l'an dernier, il y avait ça. Et minimum. Mais encore une fois, on peut avoir, après 2 ans, des moments, des dates d'anniversaire où on est encore dans l'émotion. Après, si au bout de 2 ans, on n'arrête pas de pleurer, on est complètement déprimé, on n'a plus envie de rien, on ne mange pas, on n'arrive pas à dormir, là, il s'agit peut-être d'un deuil pathologique, ce qui n'est pas notre propos. Je veux dire, si on se rend compte que quelqu'un qui viendrait dans notre réunion est vraiment mal, voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ces réunions? C'est qu'on note l'importance du partage. Moi, souvent, je tiens souvent les permanences et j'ai des personnes qui ne sont pas forcément revenues après, mais qui me disent, nous, on aimerait rencontrer des personnes qui vivent la même chose pour savoir comment ça se passe. C'est pour ça qu'on a, après avoir eu 2 sessions de formation au niveau de la fédération sur le deuil, décidé de faire ces rencontres. Auparavant, dans l'histoire, il y avait carrément un groupe d'entraide de deuil. Bon, maintenant, c'est avec une psychologue. Là, maintenant, on est parés pour l'écoute. Alors, on ne fait que de l'écoute et on laisse s'exprimer les gens. On ne donne pas de conseils. On peut donner quelques petits points théoriques pour aider la personne à cheminer. Mais bon, on n'est pas là pour leur dire « faites ci, faites ça » et « faut pas pleurer ». Je veux dire, on accueille ce qui vient. Voilà. Donc, je peux proposer quelques livre que tu prendras peut-être en photo. Donc il y en a un de Rosette Poletti qui est une infirmière suisse et qui était venue à Digne et Barbara Dobbs, Vivre son deuil et croître. Il y a bon plus humoristique Piem avec des dessins humoristiques au revoir. Bon, parce que une fois encore le sourire n'est pas exclu et c'est vrai que dans le deuil il y a aussi quelque chose qui est pas toujours cité mais qui est la culpabilité. quelquefois, une personne peut se dire, mais il est parti, j'ai plus le droit de rire, j'ai plus le droit. Non, je veux dire, on a tous les droits et chacun va les exercer à sa façon. Hein. Il y a des personnes qui continuent exactement leur activité et ça ne les empêche pas. Après, quand ils sont seuls le soir, et c'est là qu'ils peuvent peut-être avoir besoin d'une aide, y compris par un bouquin, pour pouvoir calmer la peine. Alors, donc, on a notre auteur favori que tu avais interviewé, Amanda Castello. Donc, elle a sorti un nouveau livre dont j'ai parlé ici déjà, qui est Le Second Souffle. C'est mon journal pour réapprendre à vivre avec le deuil. Donc, qui est très bien illustré et sur lequel on peut écrire, dessiner. Ça se passe 52 semaines. Pour écrire, dessiner, réfléchir, comprendre, aller mieux. Parce que bien sûr que le but, c'est d'aller mieux à un moment donné. Alors, je rappelle que cette réunion a lieu le 17 juin à 18h.
C'est un mardi.
C'est un mardi, c'est à l'Atrium. Donc, à vous qui avez vécu ou vivez un deuil, l'association Jalmav Haute-Provence propose une rencontre informelle, gratuite, sans inscription préalable. Voilà, des personnes formées à l'accompagnement au deuil vous y attendent. Venez dire votre peine et la partager avec d'autres personnes qui vivent la même épreuve. Voilà. Alors, le deuil, ben, il y a peu d'espaces qui sont dédiés au deuil actuellement, alors que tous, on a des deuils à faire. Et qu'il y a peu d'espace pour exprimer ce deuil. Je refais encore un petit lien vers le passé. Avant, quand il y avait du deuil, on était plus OK avec les rites, dont l'habit, et c'est vrai que ça pouvait aider les personnes.
C'est vrai. Alors, que ça, ce serait intéressant. Je lance un appel. Ce serait bien d'avoir des témoignages de rituels en fonction des pays, en fonction de...
Ah oui, ça, on peut le faire. On pourra le faire une fois.
Ça pourrait être intéressant de voir comment...
Tout à fait.
Quelles sont les cérémonies qui ont lieu dans tel ou tel pays.
Voilà. Et je veux dire, compléter ton propos, c'est vrai que c'est jamais pareil selon les pays, mais ce rituel, il a sa place. Je veux dire, les obsèques, y compris l'incinération, le fait de se réunir, d'être soutenu, ça a vraiment sa place pour arriver à exprimer ses émotions ou moins, ça dépend, hein. Il y a des personnes qui se refusent de pleurer en public, ben elles font. Moi je dis toujours, on fait ce qu'on peut. On fait ce qu'on peut, il n'y a pas de règles. On ne peut pas, de l'extérieur, mesurer le chagrin de quelqu'un. Ce n'est pas parce que quelqu'un ne démontre pas sa douleur du deuil qu'il ne l'a pas. Et donc, on fait très attention au moindre jugement. Voilà. Alors, ce qui est important à dire aussi, c'est qu'on ne s'occupe pas vraiment du deuil d'enfant. Pour ça, vous avez l'association La Marguerite sur Digne, qui vient de sortir un livre d'ailleurs. Il y a également une nouvelle bénévole, enfin elle n'est pas nouvelle, mais elle a été formée au deuil, mais elle n'est pas sur Digne. Et elle fait des rencontres sur Fort-Calquier. Si vous voulez, quelqu'un veut des renseignements pour avoir les coordonnées, vous nous appelez. Donc je rappelle les coordonnées. Nous avons un téléphone avec répondeur. 04 92 32 11 01. Il y a, en cas d'urgence, y en a-t-il mon portable, 06 87 85 67 40. J'ai dit des bêtises. 06 87 85 67 40. Je crois que je me suis trompée. De toute façon, il est sur l'annonce du numéro fixe. Et nous avons une adresse mail qui est jalmav, bien sûr, en minuscule, 04@wanadu.fr. Quand même une dernière petite annonce avant de conclure. Un de nos bénévoles est en train d'élaborer un site qui sera sûrement opérationnel à l'automne et qu'on nous a présenté en conseil d'administration et qui est déjà très apprécié. Pour rappel aussi, nous tenons une permanence les quatrièmes mardis du mois. Donc la prochaine a lieu bientôt, le 20... Le 24. Le 24, voilà. Nous avons d'autres actions, hein, puisqu'on fait partie, on est représentant des usagers, on est en train de renouveler. S'il y avait des personnes adhérentes qui étaient intéressées pour aller défendre les droits des personnes, et voilà, je veux dire, ça peut être quelque chose d'intéressant. Nous faisons partie des conseils de vie sociale de plusieurs maisons de retraite, donc on est intégré aussi socialement dans la cité. Voilà, si tu as des questions à nous poser sur le deuil, sur ce vécu qui est très douloureux et où, socialement, on le répète, dans lequel on ne prête pas toujours l'attention nécessaire.
Je rajouterais, oui, que nous avons des adhérents. Notre association n'a pas que des bénévoles, elle a aussi des adhérents qui nous aident éventuellement pour nos travaux de structure. Et donc, voilà, nous sommes preneurs aussi, si des adhérents veulent bien adhérer.
Nous avons, grâce à notre trésorier, obtenu le label de l'association d'utilité publique. C'est ça, je n'ai jamais entre les deux sites. Enfin, c'est que les dons et les cotisations sont déductibles des impôts. 25 euros pour une personne, 40 euros pour un couple. À quoi sert cet argent? Essentiellement, à 95% à la formation des bénévoles. Parce que pour être bénévole, on ne devient pas bénévole comme ça. On a un premier niveau de formation qui est la sensibilisation, qui se fait grâce maintenant à la fédération en visio, qui on prend 3 ou 4 séances. Après, on a une formation de base minime, entre autres autour de la mort, ma propre mort, les deuils, mes propres deuils et le deuil en général, et l'écoute essentiellement, parce qu'on ne fait que de l'écoute. Pas de soins, rien du tout, on n'est pas des bénévoles de service, on est... et après de la formation continue. Pour compléter aussi, nous avons un groupe de parole mensuel, sauf les 2 mois d'été, où on vient exprimer nos émotions, ce qui s'est passé. Je veux dire, le bénévole est accompagné. On est parfois confronté, y compris dans le deuil, à des situations difficiles. On a quand même une supervision. Hein. Je veux dire, on en parle en groupe de parole si on avait eu des soucis. On espère comme ça être le plus possible utile socialement. Alors, c'est vrai qu'on est beaucoup de retraités, parce que ça demande un peu de temps, mais ça peut demander que 2 heures par semaine, hein, une fois la formation faite. Hein. Les adhérents, c'est important, parce que leur cotisation est adhérente. Alors moi, j'appelle ça nos ambassadeurs. J'ai dit toujours, je me répète un peu, puis avec l'âge, ça ne s'améliore pas, mais ce sont nos ambassadeurs. Parce que nous avons 3 types de bénévolat. On a le bénévolat d'accompagnement, donc avec des bénévoles formés et suivis, je le répète. Le bénévolat de structure, ben, comme toute association, loi 1901, on a un CA, donc présidente, vice-présidente, etc. Et on a un troisième bénévolat qu'on appelle le bénévolat de cité, c'est-à-dire des personnes qui vont venir nous aider lors des conférences. Donc, à la rentrée, ce qu'on espère faire, c'est éventuellement passer un film commenté.
Qui passerait donc
à Ciné-Rencontre.
À Ciné-Rencontre, voilà. Oui. Et à 18h.
Voilà. Et donc, on essaie de nouer des partenariats. Par exemple, bon, là, tout à l'heure, je vais rencontrer l'équipe de Domitis pour éventuellement faire des actions. On est en lien proche avec la mairie qui nous prête des salles, qui nous aide. Nos formations ont lieu dans des salles au Cousson qui nous aident beaucoup. Nos structures nous aident beaucoup et toujours reconnaissent l'importance d'avoir des accompagnants dans leurs établissements.
Alors, voilà. Juste une question. Évidemment, vous parliez de... On est censé avoir plus de temps quand on est retraité. Est-ce qu'il n'y a pas des jeunes étudiants qui auraient envie aussi de devenir bénévoles?
Nous, on accueille, bien sûr, les jeunes.
Ça, c'est pas, ça, c'est pas produit. Il n'y a pas de curiosité ou d'envie d'aider.
Tout à fait. C'est-à-dire que là aussi, au forum, on sera bien sûr présent sur le forum. On sera présent à la fête des terroirs le 7 août, toute la journée, donc avec des documents. Et c'est vrai que s'il y a des jeunes, et puis on a besoin de relève, bien sûr, pour pouvoir, nous aussi, un peu plus bénéficier du temps de notre retraite, il n'y a pas de souci. Alors, par contre, j'ai eu une petite expérience avec un étudiant, infirmier qui avait voulu, et c'est c'est trop, quoi. Je veux dire, il vaut mieux que ce soit des études qui laissent un peu de temps libre quand même. Hein. Voilà. Mm-hmm. Mais par contre, avec des jeunes professionnels et tout, c'est vrai qu'on ne vit pas, après avoir rencontré Jalmav, sans un bénéfice extraordinaire, y compris dans l'accompagnement de ses proches.
Merci Annie Pégolotti et merci Madeleine Jacquet, donc présidente Jalmalve Haute-Provence. Donc maintenant je saurai qu'il ne faut plus faire la faute. Jusqu'à la mort accompagner la vie. Et donc je rappelle que vous avez cette ouverture des portes pour une rencontre mardi 17 juin à 18h à l'Atrium à Digne-les-Bains pour parler du deuil, échanger. C'est important aussi de pouvoir rencontrer des personnes et partager ses ressentis. Merci.
Merci.
Bonne journée. Merci. À bientôt.
Au revoir.
Au revoir.